François Copé, l'épave. Devant la mer, assise au seuil de leur maison, la veuve du marin et son jeune garçon sont en grand deuil. Hélas, l'équinoxe d'automne a fait d'affreux malheurs sur la côte bretonne. Et c'est pourquoi, rêveur, devant le ciel du soir, cette femme et son fils sont habillés de noir. Ah, dans ce lac paisible, où sous la brise fraîche viennent de s'éloigner les fins bateaux de pêche, dont les voiles là-bas blanchissent dans le ciel, nul ne reconnaîtrait cet océan cruel qui, l'an dernier, pendant la grande marée haute, en un jour a noyé 20 barques sur la côte. Et parmi tant de deuils dont le pays est plein, a navré cette femme et fait cet orphelin. Le ciel peut être pur, la mer peut être belle. La veuve du marin est sombre et se rappelle l'effroyable tempête où son âme a péri. « C'est aussi de sa faute à mon pauvre mari, » dit-elle en soupirant à son fils qui l'écoute. « Il faut porter secours au malheureux, sans doute. » Et nul ne l'a plus fait que mon brave Mathieu. Mais affronter ainsi la mort, c'est tenter Dieu. On n'avait jamais vu de pareille marée. Ton père était chez nous, sa barque était rentrée. Et il disait, en mangeant sa soupe, « Oh, il faut qu'on soit maudit pour être en mer par ce vent de ce roi. » Après dîner, Mathieu prend sa pipe et l'allume et va fumer dehors comme il avait coutume. Là, malgré le gros temps, ils étaient quelques-uns qui regardaient sauter et brosser les embruns, quand tout à coup, voilà que mon homme remarque, du côté des rochers Saint-Pierre, un trois-mâts barque, d'où Jésus ? Ça ne fut pas long. En un clin d'œil, le malheureux navire échoua sur l'écueil. « Un canot ! » dit Mathieu. J'étais épouvanté, et les autres lui montraient cette mer démontée, et la lame en fureur qui crachait des galets. « Un canot !» répétait ton père. « Sauvons-les !» Un canot à la mer. « Un canot à la mer, car nous sommes des lâches !»« Le mien, si vous voulez, car au plus la pire tâche, il est bon. Il ne craint ni le flot, ni le vent. Je l'ai baptisé d'un beau nom, en avant. » Ah, les hommes sont fous, mon pauvre Tienno, ils partirent. Et tous ont péri, tous. À l'heure où se retirent les vagues, tu m'as vu aller tout cet hiver, chaque jour aussi loin que va la basse mer, mais l'océan qui meurt à mes pieds et les lave n'a jamais rejeté la plus petite épave, pas plus du grand moi que du pauvre canot. Oh, mon mignon chéri, pauvre petit Tienno, ne va pas sur la mer. Tu sais, j'ai ta promesse. Monsieur le recteur t'aime, et tu lui sers sa messe. Il t'apprend l'écriture. Eh bien, c'est ton destin. Tu deviendras un prêtre, tu parleras latin. Et puis, loin de ces flots dont le bruit m'épouvante, quand tu seras curé, je serai ta servante. Ne fais pas le marin. D'ailleurs, tu m'as promis L'enfant se tait. Il songe à ses petits amis, à ses gamins qu'il voit dès que le matin brille au bord d'une chaloupe aller à la godille. Tandis qu'il n'ose plus, le craintif orphelin, pousser un aviron, ni nouer un grelin. Il a promis, il veut obéir à sa mère. Mais lorsque le curé, refermant sa grammaire, lui dit « Va-t'en jouer !» et qu'il est libre enfin, troussé jusqu'aux genoux et sur le sable fin, marchant pieds nus, il court bien vite vers la grève. Et le fils du marin cherche à tromper son rêve, mais sentir l'approvant soufflant dans ses cheveux et l'eau froide monter sur ses mollets nerveux, voir au loin le gros coup de l'âme mauvaise, et cela en couvrant d'écume la falaise, remplir partout un panier de grevettes, chercher, quoique hideux, le homard sous un rocher, ou saisir l'hameçon dans sa fuite rapide. Cela ne suffit pas à l'enfant intrépide. Non, son ardeur désire, c'est le bateau mouvant avec sa voile, ronde et ses deux focs au vent, et le lest de galets humide qui le change. C'est la course au lointain horizon, c'est le large, avec sa forte houle et son grand souffle amer, c'est l'ivresse d'aller sur cette vaste mer, dont le parfum le grise et le rythme l'attire. Et voilà de longs mois que Dio se martyre, mais le temps passe, encore un équinoxe affreux, les marins du port, un jour, causant entre eux, tout comme l'an dernier, sur la mer en délire, viennent de signaler un malheureux navire, un brick cette fois-ci, qui touche le récif. À chaque lame, il fait ce sursaut convulsif que l'on pourrait appeler le râle du naufrage. Un cadeau à la mer, des hommes de courage, dit quelqu'un. Aucun d'eux n'a pu certes oublier les camarades morts de l'automne dernier. Mais voilà qu'on entoure une barque et qu'on l'arme. La mer de Tienno est là, pleine d'alarmes. Elle étreint son garçon et lui redit tout bas. Tu sais, tu me l'as bien promis, tu n'iras pas. Et les yeux dilatés et se mordant la bouche, l'enfant ne répond rien et regarde farouche les braves compagnons qui prirent le bateau. Et tout à coup, une lourde et sombre masse d'eau s'écoule avec fracas, couvrant toute sa bave, et devant l'orphelin, elle jette une épave. Une planche pourrie et rongée, où l'enfant a déjà distingué ces deux mots. En avant, l'Atlantique a tiré du fond de son repère ses débris de Barceau. C'est un ordre du père. Les sauveteurs sont prêts. Ils poussent leur canot et, s'arrachant des bras de sa mère, Tienno saute intrépide auprès d'eux, saisit à la barre une rame et le voilà parti avec l'énorme lame. Comme on le suit des yeux, hardi là, comme ils vont, Sainte Vierge, voyez cette lame de fond, ils ont chaviré. Non, non, le canot se redresse. Il va toucher. Il touche au navire en détresse. Il était temps. Le brick se penche à faire peur. Ils reviennent déjà. Voilà des gens de cœur qui sont chargés. Ils ont de l'eau jusqu'au bottage. Combien en avez-vous sauvé? Tout l'équipage. Hurrah! Voilà, jetez-lui une corde. Aidez-nous. Et tandis que Joyeux saute sur les cailloux, sauveteurs et sauvés, parmi l'écume amère, le brave enfant Thiennot dit à sa pauvre mère, qui a les bras croisés l'entourent en sanglotant: Maman, ne gronde pas, le père est si content.